Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Voilà, nous continuons notre réflexion sur la culture générale, qui est basée sur le livre que j'ai publié chez Ellipse à Paris, qui s'appelle « Comprendre la culture générale ». Ce livre est paru il y a un certain nombre d'années maintenant, mais il est toujours disponible en librairie. Alors, où en sommes-nous? Nous en sommes au chapitre 8 de cet ouvrage, qui s'appelle « Culture et finitude ». Et lors de la dernière émission, nous avions amorcé justement l'épilogue de cette question à propos de l'humour. En effet, comment se pose le problème? La finitude humaine existe. Nous n'avons pas toujours les moyens de nos ambitions. Nous voudrions par exemple éprouver un sentiment qui ne meurt jamais. Eh bien, malgré tout, le temps fait son œuvre. Cronos dévore ses enfants. Ce sentiment disparaît. Se produit ce que Proust appelle les intermittences du cœur. On ne peut pas souffrir toujours, par exemple. J'avais dit, l'enfer, c'est qu'il n'y a pas de peines éternelles. Donc, il y a en nous un désir que la vie soit en ordre, que la vie soit toujours poétique, échappe au trivial, échappe au sordide, mais en réalité, ce n'est pas le cas. La finitude est là, qui nous condamne parfois à la médiocrité, ce qui fait que on se demande comment réagir justement face à elle. Alors, j'avais suggéré la piste de l'humour. L'humour me semble salvateur. Toutes les cultures ont cherché, face au problème de la finitude, à s'en tirer, en quelque sorte, comme on dit trivialement, en pratiquant l'humour. On pourrait appeler cela le rire des cultures. Et constamment, les cultures réécrivent, je pourrais dire, le livre du rire et de l'oubli. L'humour est le signe, sinon de toutes les cultures, au moins des cultures les plus hautes. J'avais dit déjà la dernière fois que la vie est comme une radio, une TSF. Pour quelques instants de musique sublime, par exemple Mozart ou Bach, il nous faut subir les parasites, les crachotements, les miaulements des ondes folles, ou bien aujourd'hui, quand ce n'est pas le cas sur la FM, il nous faut subir les spots publicitaires. Un instant, on entend Mozart ou Bach, et l'instant d'après, soit les grésillements mécaniques, soit le spot publicitaire, ou l'interférence de la station voisine. Donc Mozart est constamment violé par les parasites. Et là est l'image et la loi de l'existence. C'est Hermann Hesse, à la fin du Loup des Steppes, qui fait cette comparaison entre justement la vie et une TSF. On pourrait prendre un autre exemple, la comparaison avec un fleuve. Eh bien la vie c'est comme un grand fleuve, un fleuve qui charrie de tout, des pépites bien sûr, des choses précieuses, et puis aussi des embâcles, c'est-à-dire des obstacles qui empêchent la circulation. Donc c'est un grand fleuve. Donc il y a à la fois dans la vie du sublime et du sordide, de l'intéressant et du grotesque, et le fleuve par exemple peut porter les nénuphars avec leurs fleurs, et puis aussi des broussailles. La fontaine dit « c'est un torrent, qui faire ? Cela fut et sera toujours, c'est un torrent. » Donc, il y en a qui sont en peine, il y en a d'autres qui sont heureux. Vous voyez le début de la fable de La Fontaine, grand philosophe, grand humaniste, cette fable qui s'appelle « Le curé et le mort ». Donc voilà, voici comment elle commence. Un mort s'en allait tristement, s'emparer de son dernier gîte. Un curé s'en allait gaiement, enterrer ce mort au plus vite. Vous voyez? Donc, il y a la mort et il y a la vie qui continue. Voilà, c'est un torrent qui fait, cela fut et sera toujours. L'Ecclésiaste le dit aussi, rien n'est nouveau sous le soleil. Et Lucrèce le dit aussi dans le De Natura Rerum, et Adem Omnia Semper Sunt. et adem sunt omnia semper, c'est-à-dire toutes choses sont toujours les mêmes. Hein. C'est au chant 3 du De Natura Rerum, hein. Lucrèce s'adresse à celui qui se plaint qu'il va mourir en ayant raté sa vie, et Lucrèce lui dit « Mais que veux-tu, je ne peux rien te proposer d'autre, hein, car toutes choses sont toujours les mêmes. Te proposer une autre vie, je ne le puis, vous voyez ?» Alors, il faut donc, le salut, c'est donc de rire de tout cela, prendre au sérieux ce qui en vaut la peine, et rire du reste, puisqu'on ne peut pas zapper, hein, sur le programme de radio, hein, eh bien, il faut admettre le mélange, ce mixte, hein, s'émouvoir quand il y a lieu, et à côté de cela, admettre le sordide, le grotesque, et s'en moquer. Il faudrait regarder les choses en farce, comme disait Louis Kutener, qui est un surréaliste belge, hein. Et l'humour, c'est une garantie de santé psychique. Il prouve la plasticité de l'être, sa capacité à échapper au refuge stable des certitudes. Alors, il ne s'agit pas de nier l'exaltation qui nous fait espérer justement une vie toujours poétique, mais il faut nier l'orgueil de l'exaltation, hein. Une part de banalisation est inévitable. Je rappelle que exaltation et banalisation, comme je l'ai dit dans les émissions précédentes, sont les deux pôles majeurs du psychisme. On s'élève vers la poésie de la vie, ou bien on s'enlise dans la prose de cette même vie, vous voyez. Alors le rire, c'est une définalisation, hein. C'est se regarder de l'extérieur, en quelque sorte, c'est un regard distancié. Le rire exclut la voracité de la pulsion, il implique justement que l'on n'est pas précisément impliqué dans telle ou telle situation. Par exemple, Bergson, dans Le Rire, nous dit que le rire, c'est du mécanique plaqué sur du vivant. Si, par exemple, nous voyons quelqu'un dans la rue glisser sur une peau de banane, il s'étale et, comme on dit, les quatre fers en l'air. Alors, nous éclatons de rire. Mais, en fait, si nous nous approchons, nous nous apercevons que la personne s'est peut-être fait mal, peut-être qu'elle s'est cassée une jambe, etc. Alors, nous cessons de rire. Donc, le rire qui est définalisé s'humanise. Mais, de toute façon, derrière le rire, il y a toujours des larmes. Hein. Voyez ce que dit Baudelaire dans La Muse vénale, hein, et son rire trempé de pleurs qu'on ne voit pas, vous voyez. Hein. Figaro, chez Beaumarchais, nous dit « Je me hâte de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. » Vous voyez. Donc, il y a derrière le rire une sensibilité possible, potentiel, mais dans la mesure où le rire se développe, se déploie, il y a définalisation. En fait, il n'y a pas de sérieux, hein, au sens où il y aurait des valeurs universellement défendables, hein, mais il y a du tragique. Hein. Il n'y a pas de sérieux, mais il y a le tragique, c'est ce que dit Monterland dans Le Chaos et la Nuit. Hein. Je vous invite à lire ce livre, hein, Le Chaos et la Nuit, le titre est magnifique. Hein. Avant la naissance, il y a la nuit qui précède, justement, qui la précède. Après la mort, il y aura la nuit qui suivra la mort, hein, et pendant la vie, il y a le chaos. Avant la naissance et après la mort, il y a le non-être. Et pendant la vie, il y a le non-sens, vous voyez. Hein. Donc la vie n'a pas de sens de ce point de vue. Elle a des formes toujours changeantes. Elle est métamorphose. Hein, et il faut admettre justement cette métamorphose constante. Admettre que le grand fleuve continue de couler. Donc la vie est mêlée. J'avais dit la dernière fois qu'on peut la résumer en disant qu'elle est faite de haut et de bas, hein. C'est-à-dire que je navigue entre ces deux interjections, haut par admiration et bas par mépris, vous voyez. Donc l'humour, on l'a défini comme la politesse du désespoir, hein, ou comme une façon élégante de se sortir d'une situation sans pour autant se tirer d'affaire. Aussi faudrait-il mourir, par exemple, avec savoir-vivre, comme le dirait un humoriste. Hein. Et alors on pourrait dire aussi que l'humour est comme les essuie-glaces d'une voiture. Les essuie-glaces permettent d'avancer, mais n'empêchent pas la pluie de tomber. Hein. Donc il y a cette sensibilité quand même qui existe, mais qui est dépassée d'un certain point de vue. Alors, l'humour, disait Jules Renard, c'est la propreté morale et quotidienne de l'esprit. L'humour, c'est le sens de la globalité, c'est la fin de la centralité, je dirais, paranoïaque, qui fait que l'on ramène tout à soi, hein. Le fameux tout à l'ego dont j'ai déjà parlé, hein. Et contre la paranoïa, il y a ce que j'appellerais la métanoïa de l'humour. Alors, vous allez dire, qu'est-ce que ça veut dire métanoïa? Ça veut dire changement d'état d'esprit, en grec, hein. C'est le mot que le Nouveau Testament utilise pour dire la conversion ou le retour à Dieu, hein. Mais je le prends ici dans un autre sens et je change ma mentalité. Normalement, je suis paranoïaque, c'est-à-dire je ramène tout à moi, mais il faut que j'entre dans les raisons des autres, que j'ai une vision globale, une vision synoptique. Synoptikos ou dialecticos, disait Platon. Le dialecticien est celui qui voit la globalité. Synoptique, c'est ça, hein. Donc, soyons dialecticiens. Kafka dit quelque part d'une maxime très très profonde, dans le combat entre toi et le monde, seconde le monde, c'est-à-dire essaie d'entrer dans les raisons du monde et cesse de tout ramener à toi. Voilà, après cette petite virgule musicale, nous reprenons la réflexion. Je dirais que l'humour, c'est le renversement de l'importance que habituellement accordée aux choses. L'humour invite l'esprit à la prudence et au mystère. En effet, que savons-nous des choses? Et savons-nous si nos déterminations à leurs propos sont justes, hein? Un proverbe juif dit très bien « Dieu rit quand l'homme pense », vous voyez. Et l'humour juif, par exemple, celui de Chaplin, celui de Woody Allen, déjà celui de Freud, hein, peut être lu comme signe de la transcendance absolue de Dieu ou de l'échec du logos humain. Logos, c'est la parole et la raison, hein, en grec, hein. L'humour inverse les perspectives. Il réhabilite le petit et il dévalorise le grand. Il subvertit par là les habitudes mentales. Donc il joint le futile à l'agréable, d'un certain point de vue, hein. Parler légèrement des choses sérieuses, parler sérieusement des choses légères, voilà les caractéristiques de l'humour. Hein. De ce point de vue, la parole, j'allais dire parabole, c'est le même mot, hein, la parole évangélique, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers, cette parole est totalement humoristique, hein, puisque, comme dit le Magnificat, il a abaissé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles, et exaltavit humiles dans la Vulgate, hein. Donc il y a un renversement des rôles. On peut voir aussi de l'humour dans la parole de Jésus, et moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Alors vous allez me dire pourquoi? Ben parce que justement, normalement la réaction quand on est agressé, c'est de répondre à une agression. Mais ne pas résister aux méchants, c'est d'un certain point de vue définaliser sa propre conduite, s'observer de l'extérieur et se dire à quoi bon se défendre. Peut-être que l'autre sera surpris de la non-défense et peut-être sera-t-il amené à réfléchir, au moins on peut l'espérer, vous voyez. Donc c'est un petit sourire, hein, qu'il y aurait ici et une porte qui, au lieu d'être hermétiquement fermée, hein, agression, défense et riposte, s'ouvrirait, l'ouverture d'une porte. De toute façon, dans un monde d'humoristes, les chefs qui subjuguent les peuples, les ayatollahs divers sont impossible, hein. On ne peut pas avoir un Führer, un Duce ou un Caudillo, si vous voulez, dans un monde d'humoristes. Voyez par exemple le film de Chaplin, Le Dictateur, où l'on voit Hitler et Mussolini faire assaut justement de position élevée chez le coiffeur, je crois, hein. Donc chacun faisant s'élever son propre siège pour être plus haut que l'autre, vous voyez. Donc ce gag est intéressant. Cela montre justement que l'esprit de sérieux mène à de la folie. Quand je parlais des ayatollahs divers, je pense par exemple aux mollahs qui ont détruit les statues de Bouddha, par exemple les fameux talibans afghans en mars 2001. Ce sont des nouveaux polyuctes. Polyuctes va briser les statues païennes pour défendre sa foi par fanatisme. C'est-à-dire fanatisme, c'est la défense du temple, de sa propre église, fanum en latin. Voilà. Mais déjà, Mahomet, de retour de Médine, avait détruit les statues idoles de la Mecque, vous voyez. Donc, là, je pense, contre ces attitudes iconoclastes et violentes, il faut défendre l'humour. L'humour, c'est le meilleur antidote au fanatisme. Tout ce qui concerne le rire est tabou dans les cultures closes, des cultures qui sont figées sur leur certitude. En effet, si on commence à rire de quelque chose, on peut se demander où est-ce que l'on va s'arrêter. Dans son roman Le nom de la rose, Umberto Eco montre qu'un traité d'Aristote sur le rire et la comédie, exhumé en plein intégrisme médiéval, peut-être le salut humain de cette époque. Ici, le symbole est évident. En ce sens, l'humour est le plus grand des bienfaiteurs culturels, peut-être le signe des cultures les plus achevées. Quand je parlais de réhabiliter le petit, je pense à une phrase de Gilles Deleuze qui dit « Les Grecs étaient superficiels par profondeur », vous voyez. Et pour revenir au nom de la rose, alors, au Moyen-Âge, on proscrivait le rire parce que, disait-on, le Christ n'a pas ri. On gardait le sourire qui, pensait-on, était gracieux. Voyez l'ange de Reims, le sourire est apparu au XIIIe siècle dans les statues gothiques. Voyez Chartres ou Reims, par exemple. Mais alors on a admis le sourire, mais pas du tout le rire. Parce que le rire, pensait-on, donnait aux traits humains l'apparence d'un singe, c'est une face convulsive ou convulsée, une face d'animal, une face simiesque. Alors on dit Jésus n'a jamais ri, mais en fait, est-ce qu'on en est sûr, hein? Bon, où est-ce qu'on a lu dans l'Évangile, par exemple, que Jésus ne riait pas, hein? Donc cet argument, il ne faut pas rire parce que Jésus n'a pas ri, c'est ce qu'on appelle un argument a silentio, c'est-à-dire tiré du silence. Bon, le texte ne fait pas mention de rire de Jésus, mais cet argument n'est pas pertinent. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas dans l'Évangile des instants où Jésus se met à rire que Jésus n'a jamais ri. C'est un peu comme la même chose que pour son célibat. Ce n'est pas parce que il n'est jamais question de la femme de Jésus que Jésus n'était pas marié. Vous voyez, en fait, il y avait de grandes chances qu'il l'ait été, puisque c'est un rabbin. Il est appelé lui-même rabbin, et en monde juif, le rabbin est toujours marié. Vous voyez. Donc, je crois qu'il faut quand même réfléchir objectivement sur ces choses-là. Ne pas se laisser prendre par de tels arguments, par l'argument a silentio. En fait, ce qui intéresse les narrateurs évangéliques, c'est tout autre chose que l'éventuel rire de Jésus ou l'éventuel état de marié de Jésus. C'est une proclamation, un kérigme, une proclamation de foi, et non pas du tout un événement biographique. Alors, dans le zen, le rire est essentiel. Le rire peut préparer à ce qu'on appelle le satori, c'est-à-dire l'illumination. Voyez par exemple l'exercice du koan dans le zen. Koan, K-O-A-N. C'est une petite question, justement, un petit dialogue qu'il y a entre le maître et le disciple. Le disciple peut dire au maître « Où est Bouddha ?» Eh bien, le maître va répondre à côté. Il va répondre: le cyprès est dans la cour, voyez. Alors, où est Bouddha? On attend une grande révélation. Le cyprès est dans la cour, c'est un éclat de rire, en quelque sorte, du maître zen. Et cet éclat de rire est salvateur, parce qu'il nous montre quoi? Il nous montre que le langage, qui est l'ambition de définir les choses, et de nous donner la clé du monde, est inopérant, non pertinent. Il faut se méfier du langage. D'ailleurs, Lao Tzu dit la même chose au début du Tao Te King, hein, la voix vraiment voix n'est pas une voix constante, les termes vraiment termes ne sont pas des termes constants, dont tous les problèmes viennent de la nomination et du langage. D'où le maître qui peut justement déstabiliser le disciple en faisant une réponse absurde. Par exemple, il posera la question, quel est le bruit que fait l'applaudissement quand on ne se sert que d'une seule main, hein, le disciple ne sait pas répondre. Alors éventuellement, le maître pourra donner une gifle au disciple ou un coup de bâton sur son dos pour montrer justement l'absurdité de ce type de questionnement. Alors, le rire nous libère, hein. Le rire fait éclater les certitudes. Les certitudes sont la mort spirituelle de l'être, hein. Tous les psychorigides, justement, sont incapables de rire, hein. Par exemple, tenez, l'épisode de la stérilité de Sarah, la femme d'Abraham. Bon, elle pense qu'elle n'aura jamais d'enfant et en fait, les trois anges qui viennent lui disent « Mais non, tu en auras un ». Effectivement, après, elle met au monde un enfant qui s'appellera Isaac. Isaac, ça veut dire « celui qui rit » ou « celui qui rira », vous voyez. Donc, le rire de Sarah, un rire vraiment sur l'impossibilité d'avoir un enfant, va se trouver incarné justement dans le nom que porte son fils. Et dans l'interprétation ou l'herméneutique, voyez par exemple le Talmud, hein, interprétation de la Bible juive, l'essentiel c'est le saut dans l'inconnu incarné par le rire. Lire c'est s'éclater. Je pense à un livre très important de Marc-Alain Wagnin qui s'appelle « Lire aux éclats », hein. Donc il faut savoir rire. Je vous souhaite, chers auditeurs, de rire. Souvenez-vous de ce que disait Beaumarchais, la plus perdue de toutes les journées est celle où l'on n'a pas ri. Il faut aussi tenir compte de la part de l'invention, de la fiction, je dirais sur les textes sacrés eux-mêmes, ou les textes que l'on a sacralisés, hein. L'invention participe de ce rire, l'invention justement contribue à l'ouverture et au déploiement du sens. Le commentaire et l'herméneutique tout entier sont vus comme des distances prises, comme un rire. C'est la fin de la célébration inconditionnelle. On pourrait dire que la fiction et le roman sont le rire des sociétés, sont le retour justement. Par-delà le kérigme, par-delà les credos et les confessions de foi, à quelque chose de beaucoup plus ouvert. Alors, selon Salman Rushdie, hein, l'incapacité à saisir l'humour est le signe des sociétés sclérosées. Voyez ce qu'il dit dans les versets sataniques qui développent la tentation polythéiste de Mahomet, hein, à partir d'une sourate du Coran qui s'appelle l'Étoile. Alors, ce livre a valu à son auteur de faire l'objet d'une fatwa, c'est-à-dire d'une condamnation à mort, hein, justement, et cette tentation du polythéisme, bien sûr, et de plus graves conséquences que celle de l'immoralité potentielle de la vie du prophète. Alors, je crois qu'il faut savoir rire. Alors, à propos justement de cette ouverture et de cette interprétation sans a priori des textes sacralisés, je vous renvoie à mon dernier livre paru qui s'appelle « Marge du livre ». Le sous-titre, c'est « Fiction biblique ». Il est paru chez BOD, hein, « Books on Demand ». BOD.fr sur internet, vous le trouvez aussi sur les sites de vente en ligne. Par parenthèse, je vous indique aussi mon avant-dernier livre qui s'appelle « Sur les chemins de la sagesse », toujours chez le même éditeur, qui se termine par un éloge de l'humour. Hein. Je trouve que le sage est celui qui sait rire, et rire de lui-même, bien sûr, des autres aussi, mais principalement de lui-même. Il y a un livre de François Rustan dont j'aime bien le titre, c'est « Comment faire rire un paranoïaque ». Hein. Donc, le paranoïaque, justement, c'est une hypertrophie de sa propre centralité, hein, et eh bien il faut effectivement le déstabiliser au moyen du rire. Alors voilà, chers auditeurs, je ne sais pas si l'émission d'aujourd'hui vous a fait rire, hein, j'espère qu'elle a pu le faire de temps en temps, hein. Bon, mais bien entendu, il faut savoir que celui qui ne rit jamais n'est pas quelqu'un de vraiment sérieux. C'est-à-dire que derrière le rire, il y a, comment dire, dire, une posture intéressante, une ouverture d'esprit. Ce n'est pas le rire fun, le rire amusant, justement, qui prolifère aujourd'hui sur Internet et ailleurs. Et c'est pas ce rire léger, euphorique et convivial dont je parle. C'est un rire profond. Hein. Vous voyez ce que dit Hugo à propos du rire de Rabelais, hein, et son éclat de rire énorme est un des gouffres de l'esprit. Je crois que c'est dans Les Phares de Victor Hugo, vous voyez. Donc, il faut savoir que ce n'est pas parce que l'on rit que l'on n'a pas une pensée, comment dire, substantielle et intéressante. Voilà, et bien sur ces belles paroles, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour la continuation de cette réflexion. Au revoir à tous.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.